Le journal Loïc Barrière. Un pèlerinage chiite réunit des millions de personnes dans la ville de Kerbela en Irak. 5 soldats syriens et 2 combattants pro-iraniens tués par Israël lors d'une attaque près de l'aéroport de Damas. Le 40e anniversaire du massacre des camps palestiniens de Sabra et Shatila au Liban, entretien avec Eli Mazbounji, président de l'association de la presse étrangère. Il était alors journaliste à L'Orient le Jour. Dans le Rhône, un séminaire sur la formation des imams a été organisé il y a quelques jours. Entretien avec Kamel Kaptan, recteur de la Grande Mosquée de Lyon. Enfin, de nombreux bâtiments publics ouvrent leurs portes ce week-end à l'occasion des Journées du Patrimoine. En Irak, plusieurs millions de chiites assistent au pèlerinage de l'Arbaïn à Kerbela. Il s'agit d'un des plus grands rassemblements religieux au monde. Les pèlerins marquent le 40e jour de deuil pour le martyr de l'imam Hussein, qui est une des figures du chiisme. Parmi les personnes présentes à Kerbela ce week-end, de nombreux Iraniens. 5 soldats syriens tués dans des frappes israéliennes près de l'aéroport de Damas. C'est ce qu'a annoncé l'agence de presse officielle syrienne. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 2 combattants soutenus par l'Iran ont également été tués lors de cette attaque. Les banques libanaises annoncent une fermeture de 3 jours pour des raisons de sécurité. Les intrusions de clients en colère se sont multipliées ces derniers jours dans les établissements bancaires au Liban. Des clients qui demandent l'accès à leurs économies gelées. Mercredi, une jeune femme a braqué une banque pour retirer son argent, affirmant vouloir payer les soins de sa sœur atteinte d'un cancer. Il y a 40 ans était commis le massacre de Sabra et Shatila, des camps palestiniens situés dans la banlieue sud de Beyrouth. Femmes, enfants, vieillards assassinés méthodiquement par des miliciens quelques jours après l'assassinat du président Béchir Gemayel. Gros plan sur cette page sombre de l'histoire du Liban avec Eli Mazbounji, président de l'association de la presse étrangère. Il était journaliste à L'Orient le Jour lors de cette tragédie. Entretien.
Le contexte était l'horreur de ce massacre, ajouté à l'horreur de la situation en général, notamment l'assassinat de Béchir Gemayel. D'ailleurs, les deux drames sont en corrélation, puisque les instigateurs et les véritables architectes et organisateurs de ce massacre, c'était l'état-major d'Ariel Sharon, qui à l'époque faisait la pluie et non pas le beau temps au Liban. Il régnait en maître absolu dans la partie occupée par Israël, qui quand même encerclait Beyrouth ouest, où la résistance palestinienne et les partis libanais de gauche contrôlaient. C'était une année horrible, pour reprendre les mots de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, c'était une année horrible, puisque suite à la véritable invasion israélienne, Sharon avait promis à son état-major d'occuper une bande de 20 kilomètres. Il est arrivé jusqu'à la banlieue beyrouthine et même plus loin. Et donc ce massacre était la réaction sur incitation d'Israël à l'assassinat de Béchir Gemayel. Les Israéliens avaient réussi à créer des noyaux dont les membres étaient des adhérents à la résistance libanaise, qui elle-même n'était pas unie et structurée, bien structurée à l'époque. Puisque après l'assassinat de Béchir Gemayel, il y a eu plusieurs groupements, dont un ou deux ont été utilisés par Israël pour commettre cet atroce attentat, croyant qu'ils allaient faire évacuer les Palestiniens du Liban sous le coup de l'horreur. Or, après, j'étais à l'époque au service local de L'Orient le Jour, je suis allé avec un photographe et je ne veux pas reprendre les scènes d'horreur que nous avons vécues, au point où les photographes étaient expérimentés pourtant à ce genre d'horreur après des années de guerre. Il y en a un qui a abandonné carrément, il a eu un problème. Bref, pour vous dire que plus horrible que ça, on ne pouvait pas avoir. Quand on pense que à partir du toit d'un immeuble voisin, Sharon lui-même était en train de diriger l'opération, il ne fait plus de doute que qui étaient les instigateurs et qui étaient les exécutants. Les exécutants étaient des individus entraînés par les Israéliens pour leur faire croire que ce sont les Palestiniens, et plus exactement ceux qui étaient à Sabra et à Chatelia, puisqu'il y avait des éléments militairement sur ces deux camps bien équipés, et que ce sont les habitants de le camp. Donc, comme ils n'ont trouvé que des civils, ils se sont défoulés sur les civils, avec certains témoins sur place qui étaient plus avancés que nous, affirmer que les assaillants n'étaient pas dans un état normal. Donc ils avaient, comme le font souvent les armées et les milices, ils avaient absorbé des quantités de stupéfiants. Donc c'était une horrible situation dont l'horreur avait pris naissance dans l'esprit et dans la tête de Ariel Sharon, qui a d'ailleurs été poursuivi auprès de la presse internationale. Il a intenté des procès à des magazines qui ont gagné finalement contre lui. Bref, l'horreur charonienne, si l'on peut dire, qui s'ajoute à l'horreur de la situation et de la conjoncture.
Des crimes qui restent impunis aujourd'hui.
Impunis, absolument, absolument, absolument impunis, puisque ces éléments, finalement, ils sont quelque part, ils existent, ce sont des miliciens, mais on ne sait pas aujourd'hui où ils sont, s'ils ont abandonné, s'ils ont rejoint d'autres milices avec d'autres noms, etc. Donc, impossible même d'entreprendre la moindre investigation, surtout qu'à l'époque, la situation n'était pas normale du tout. Aujourd'hui, la justice n'est pas en meilleur état. Avec des massacres comme ça, des événements aussi sanglants, on ne peut pas parler d'enquête ni de responsabilité. La seule responsabilité qui est avérée et qui est reconnue, c'est celle de Ariel Sharon, personnellement, et en qualité, bien sûr, de ministre de Défense à l'époque.
Et vous l'avez dit, vous avez couvert ces massacres pour L'Orient le jour.
Il y avait un cordon militaire tout autour. Mais par contre, un de nos collègues a réussi à entrer en plein camp. Et pendant que les massacres continuaient, et il a vu des choses beaucoup plus poignantes. D'ailleurs, ça l'a traumatisé pendant un certain temps. Il était à l'intérieur, il était là. Le sale boulot n'était pas encore fini quand il est entré. Bien sûr, c'est quelque chose qui a ému tous les Libanais de tous bords. Cette unanimité de la condamnation de cette horreur montre que aucun groupe libanais et aucun leader libanais n'a pu imaginer la moindre opération de ce genre. Parce que finalement, la guerre libanaise opposait des miliciens et des groupements à connotation politique. Pendant toute la guerre civile, dite civile libanaise, il n'y a pas eu un massacre d'une telle ampleur. Il y a eu bien sûr des attentats, mais jamais, jamais d'une telle horreur, et surtout contre des civils, puisque ces deux camps qui ont été attaqués, il n'y avait que des civils. Les miliciens, les milices palestiniennes donc, qui étaient dans ce camp étaient partis. Il y avait eu l'évacuation déjà des forces armées palestiniennes. C'est ça qui ajoute l'horreur en plus, c'est qu'ils savaient délibérément qu'ils attaquaient un camp palestinien où il n'y avait pas un seul fusil. Et dans la logique de M. Sharon, c'était terroriser les Palestiniens pour qu'ils se retirent. Or, ce n'est pas du tout arrivé. C'est d'ailleurs, il faut rappeler que c'est comme ça avec des observations pareilles que la Palestine a été occupée et que la création de l'État d'Israël était basée sur des massacres de villages dont les noms sont encore dans les mémoires. Donc, ils pensaient pouvoir utiliser cette méthode au Liban pour que tous les Palestiniens, civils ou pas civils, pour qu'il y ait un exode massif de Palestiniens. Ce n'est pas du tout arrivé. Au contraire, il y a eu un mouvement, je ne dirais pas de solidarité, mais de sympathie de la part de toutes les couches de la population libanaise.
Et entre 800 et 3500 réfugiés palestiniens ont été massacrés. Il n'y a pas de chiffres précis aujourd'hui.
Les chiffres sont difficiles parce qu'il n'y a pas eu... C'est une opération qui était, si on peut dire, isolée. Donc c'est pas un crime où il y a une autorité qui arrive, qui délimite le terrain, qui commence une enquête à chaud. Ça n'a pas été le cas. puisque ces camps n'étaient à l'époque contrôlés par personne. Et c'est ce qui rend l'obtention de chiffres très très difficile. Il y a eu plusieurs épisodes dans la guerre libanaise, et dans d'autres guerres aussi, où l'absence d'enquête immédiate sur place et le temps qui passe n'arrive pas. On a des évaluations, mais on peut parler de milliers de personnes, oui, parce que ce sont, comme vous l'avez dit au début, ce sont deux camps importants, les deux plus importants camps. Donc, on peut parler de milliers, oui, on peut parler de milliers. Quant aux traces, qui va aller chercher des traces dans un camp qui est encore dans une zone qui échappe à l'autorité libanaise, même aujourd'hui, ce fameux accord du Caire qui donne une extraterritorialité aux camps palestiniens. Ils ont été démilitarisés pendant le fameux retrait armé des Palestiniens et le départ de Arafat. Ça s'est avéré une sorte de comédie puisqu'il y a encore une présence palestinienne armée dans les camps. Mais dans ces deux camps en particulier, il n'y avait pas d'armes. Et c'est ça qui ajoute l'horreur à l'horreur, comme on le disait tout à l'heure.
Eli Mazbounji, président de l'Association de la presse étrangère, au micro de François-Xavier de Calonne. Le président tunisien Kais Saied a promulgué un décret pour lutter contre les fake news. Le texte introduit une peine de prison de 5 ans et une lourde amende pour toute personne qui diffuserait des fausses informations ou des rumeurs en ligne. En France, les journées européennes du patrimoine ont lieu ce week-end, l'occasion de visiter des lieux exceptionnels comme le palais de l'Élysée ou l'Assemblée nationale, mais aussi des lieux de culte comme les grandes mosquées de Paris et de Lyon. À Marseille, le MUCEM ouvre ses portes tout le week-end. Autre idée de visite, le palais de justice dans la ville d'Arras. À Dunkerque, on peut monter à bord d'un patrouilleur de la marine nationale. Et puis à Colmar, il est possible de découvrir la bibliothèque des Dominicains. Regard sur la formation des imams en France. L'Institut supérieur de théologie musulmane, le Conseil théologique des imams du Rhône et le Conseil des mosquées du Rhône ont organisé un séminaire de formation il y a quelques jours. On écoute Kamel Kaptan, président du Conseil des mosquées du Rhône et recteur de la Grande Mosquée de Lyon.
C'est effectivement la troisième formation que nous avons eue cette année. Nous avons eu en mars, en juin et aujourd'hui en septembre, et nous en aurons une sûrement en novembre. L'objectif de ce séminaire, c'est justement de mettre à niveau nos imams sur un certain nombre de questions, et notamment sur des questions ayant trait à leur ministère, je dirais. Aujourd'hui, certains imams ont besoin d'évoluer, de faire évoluer leurs connaissances. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas la possibilité de le faire. Depuis, nous avons créé l'Institut supérieur de théologie musulmane depuis quelque temps déjà, et un des objectifs de cet institut et celui du Conseil des mosquées du Rhône, c'est celui d'élever le niveau intellectuel de nos imams en les faisant participer à des formations continues qui leur permettent effectivement, au travers des enseignants qui viennent, cette fois-ci ce sont des enseignants de l'université de la Zitouna qui sont venus et qui ont effectivement été très appréciés. Nos imams étaient plus de 50 cette année, ils venaient aussi bien du Rhône que de l'Isère, que de la Loire, que de l'Ain. Et je pense que c'est assez significatif qu'aujourd'hui, l'ensemble de nos imams sont volontaires pour élever leur niveau, compte tenu que d'ici le 31 décembre 2023, il n'y aura plus d'imams qui viennent des pays d'origine. Donc il va falloir combler ce vide et la seule possibilité de le faire, c'est celui de mettre en place des formations qui correspondent aux besoins de nos imams.
Oui, parce qu'il s'agissait là d'une formation complémentaire.
Oui, d'une formation complémentaire sur le thème l'ijtihad à l'heure de la globalisation. C'est-à-dire comment aujourd'hui faire en sorte qu'on fasse évoluer la pensée de nos imams au temps de la globalisation où le monde se résume à un petit village où tout doit être connu et su. Et donc il est important pour eux de s'adapter à cette évolution actuelle et notamment pouvoir s'adapter au pays dans lequel nous vivons et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'amalgame qui soit fait ni de mauvaise compréhension de ce que peuvent dire nos imams aujourd'hui. Vous avez pu le constater qu'aujourd'hui il est important que de faire en sorte que la compréhension des textes soit comprise de tous et non plus simplement qu'elle se fasse au détour de mots et que nos imams puissent se retrouver dans des situations difficiles.
Quelles ont été leurs principales interrogations?
Oh, leurs principales interrogations, c'est sûr que c'est par exemple, quelle est l'importance, c'est quoi le statut et l'importance du ijtihad en islam? C'est quoi, reconnaître, c'est quoi? Ce qui est important aujourd'hui, c'est de témoigner. peut témoigner de ce qu'on connaît, de ce qui est la réalité des choses, l'évolution qui s'est faite. Aujourd'hui, l'islam vit au 21e siècle, au 22e, et qu'aujourd'hui, il est important que les connaissances puissent aussi évoluer en fonction du temps et de l'espace.
Quel regard portez-vous sur l'évolution de la formation des imams aujourd'hui en France?
C'est vrai, c'est une question très importante. Et à plusieurs reprises, elle a été abordée, je ne sais pas de quelle façon. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien, si ce n'est que des petites formations qui sont données de ci et de là. Nous pensions que le ministère, compte tenu de la décision qu'il a prise de ne plus signer de convention avec les pays d'origine pour l'envoi d'imams pour venir enseigner ou pour venir prêcher ici en France, donc il va falloir que aujourd'hui, que les musulmans se prennent en charge eux-mêmes. Et c'est ça qui est important, c'est que les musulmans ont pris conscience qu'on ne peut plus rien attendre d'ailleurs et qu'il faut aujourd'hui faire en sorte que les choses viennent de nous-mêmes. Donc c'est pour ça que aujourd'hui nous essayons de pallier à des insuffisances, à des situations où nos imams doivent être capables de transmettre le message de façon claire et sans ambiguïté. Et c'est ce que nous essayons de faire au travers de ce séminaire, c'est ce que nous avons expliqué à nos imams qui étaient présents. Il y avait plus de 50 imams qui étaient présents. C'est là le plus important. Je pense que c'est ce nombre important d'imams qui montre qu'il y a des besoins. Donc, voilà, au niveau de la formation, nous avons pensé que le gouvernement pourrait nous aider à faire en sorte de faire évoluer et de faire prévaloir une formation d'imams français qui puisse leur permettre de connaître l'espace dans lequel ils vivent et dans lequel ils agissent en permanence.
Kamel Kaptan, président du Conseil des mosquées du Rhône et recteur de la Grande Mosquée de Lyon, il était interrogé par François-Xavier de Calonne. La Grande Mosquée de Paris poursuit demain son université d'été. Elle a été inaugurée hier en présence notamment du ministre algérien des Affaires religieuses et de plusieurs ambassadeurs accrédités à Paris. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce samedi à 23h est Pierre Henry pour un roman intitulé « Les cendres de la mer » aux éditions Un Point C'est Tout. Rediffusion de cette émission dimanche à 19h. Dimanche à midi et 18h, vous retrouverez François-Xavier de Calonne. Retrouvez nos journaux et nos émissions sur radioorient.com. Excellent week-end à l'écoute de Radio Orient.